vous pouvez faire part d'expérience, vous pouvez essayer d'éclairer, de demander à éclairer, d'éclairer même. Oui.
Oui. Qu'est-ce que c'est faire un deuil?
Oui, je peux. On renvoie la question. je me pose aussi cette question. Ce qui est sûr, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un usage inflationniste du terme, enfin on emploie toujours, et puis c'est des pas hein, aujourd'hui, enfin l'actualité récente qui va me démentir hein, à propos de la tragédie précisément de...
Je parle pour nous tous, hein, je parle pas pour ce qui se passe.
Oui, non mais je veux dire, il est toujours question effectivement hein, de faire son deuil, et ce qui est aussi frappant, c'est que dès que une catastrophe de ce genre se produit, hein, il y a une armée, alors rien contre, et loin s'en faut, hein, une armée de psychologues, hein, je veux dire, voilà, je n'ai rien contre la psychologie, au contraire, bien au contraire, s'en faut, et la psychanalyse, hein, je considère comme de grandes découvertes et des disciplines tout à fait intéressantes, remarquables, mais comme si au fond il s'agissait de suppléer précisément à ce qui peut-être n'a plus lieu sous d'autres formes.
Au fond, je comprends pas, hein.
Ce que je dis là, faire son deuil, ce que l'on entend, c'est que précisément, enfin en tout cas, la lecture qu'en donne Françoise Lascure, c'est critique par rapport justement à cette manière dont on conçoit aujourd'hui la mort. Il s'agit de faire son deuil parce que précisément, au fond, la mort ne serait plus prise en charge comme elle pouvait l'être auparavant par la communauté, par la collectivité, par la société tout entière. Au fond, elle part simplement d'un constat, hein, d'un constat de fait. Constat établi aussi bien par Vauvel, par Ariès, par tous les anthropologues qui, au fond... ont montré qu'il y avait que nous percevons aussi, une déritualisation de la mort, une perte de toutes les formes, de tous les rites que l'on pouvait connaître auparavant. C'est un fait. Alors, l'évolution de nos sociétés, l'individualisme a fait que précisément, au fond, tous ces repérages communautaires s'estompent. Oui. Enfin, en temps dans mon enfance, on pouvait voir...
Concrètement, pardon, j'entends tout ce que... J'allais nettoyer tout ce que vous dites. Sauf que là, aujourd'hui, demain, on perd... un enfant...
Je comprends bien, la question, ça veut dire faire son deuil.
Que tu parles de madame de je sais pas quoi, ou enfin, cette dame-là, ou ce monsieur, je sais pas si c'est un...
Françoise.
Bon sang, la douleur, elle est là, et donc c'est... Enfin, voilà, je sais pas, le deuil, c'est quoi? Il est où, le deuil?
Comment fait-on face à une perte? Bien sûr. Il est facile effectivement d'adopter une position un peu intellectualisante et prendre ça évidemment de très haut. Moi-même, comment je ferais si j'avais à subir cette épreuve? Ce que dit simplement Lascure me paraît intéressant dans la mesure où effectivement elle est très critique par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui faire son deuil. Elle voit simplement que un changement s'est produit dans nos sociétés et que cette psychologisation du deuil n'est pas ce qui facilite véritablement la tâche justement de surmonter cette épreuve qu'est la mort. Enfin bon, je ne sais pas si je suis clair, mais bon, ce sont là des éléments que je vous offre à la réflexion. Elle est très critique par rapport à cela. Maintenant, dit-elle, les évolutions de la société et l'individualisme grandissant conduit peut-être à trouver d'autres... Ce sont peut-être d'autres de nouvelles formes, justement, d'aborder la mort. Et en soi, elles ne doivent pas être non plus nécessairement conduites, critiquées et rejetées. Ce qui est un fait, c'est que nous n'abordons pas la question, manifestement, nous n'abordons pas la question de la mort de la même manière. Et tout ça participe de toutes ces évolutions. Bon, la religion ne fait plus ce lien, ce liant, quand bien même ce que l'on peut soi-même penser de la religion, ce qu'elle pouvait faire, enfin, auparavant. Oui, pardon.
Juste, je vais être une question provocante. Combien de fois les Français vont sur un cimetière par an? Une fois pour poser ces fameuses chrysanthèmes.
Oui, ouais, bien sûr. Mais non, mais ça, je crois mais, aussi, mais ça, ça participe de...
Pour moi, c'est
bien sûr. Ouais.
Française, chez nous les cimetières ont un aspect complètement différent, ce sont des parcs, avec des arbres, des verdures, des banques, on y reste. Chez vous, dans les cimetières, on reste
au sinistre.
Pas.
Non.
Ça dépend des pierres.
On se promène beaucoup, mais pour moi, c'est de passer
de longues heures dans les cimetières. Pas le soir.
C'est l'aspect d'enterrer les morts sur une plaque de marbre grise pour qu'ils ne reviennent surtout pas.
Ça laisse froid.
C'est atroce. Combien de fois dans l'année vous allez voir vos grands-parents
Je ne vais jamais, je suis jamais au cimetière sauf pour l'enterrement. Tu m'excuseras, mais mes parents, je les ai là, avec moi, dans mon cœur, dans mon esprit, et je ne vais pas forcément sur le lieu où ils sont enterrés. Alors, et c'est une autre manière de voir les choses,
une
autre manière de penser.
J'ai formulé un peu provocant.
Hein, je sais
que
t'as réussi.
J'ai une petite expérience de jardinier qui habite au coin opposé au cimetière de Saint-Christophe. Et c'est vrai que quand je passe du temps dans le jardin, j'entends le bruit de la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Il y a finalement, en dehors des 15 jours là, actuels, oui. Mais en dehors de ces 15 jours, il y a quand même des gens qui ont sûrement le besoin d'y aller. Voilà, d'y aller. Parce que je vois très souvent les mêmes personnes à Saint-Christophe, puisque j'habite à Saint-Christophe. Je peux dire que quand je suis au jardin, que je fais mon travail au jardin, ben, il y a globalement 5-6 personnes que je revois très régulièrement aller au cimetière. Alors bon, c'est peut-être... ils n'ont pas l'idée d'un autre cimetière que celui-là. Ils n'ont pas... Mais c'est une fonction qui, pour eux, est sûrement importante. C'est vrai qu'aller dans un cimetière méridional où on a des tombes dans la terre avec des cyprès, des genévriers...
Je
des...
disais bon, c'est quand même... juste tout à l'heure pendant la pause, mais bon, le marbre est froid. On peut aussi s'interroger sur... sur ce que peut-être effectivement le rapport que nous pouvons avoir, que nous aurons avec ces petites boîtes là, de crématorium dans lesquelles il y a juste quelques cendres. Ça me laisse encore plus froid pour le coup, hein, ce genre de lieu. Et nécessairement on s'achemine vers ça. Hein, l'urbanisation est telle qu'il faudra de la place et faire de la place. Et nécessairement on va vers ce modèle de cimetière désormais. Et c'est encore plus. Plus dépersonnalisant, enfin plus froid, hein, que le marbre.
Alors que ce soit le granit ou le marbre ou le bois, c'est tout à la même température. Hein. Ça, tu peux y aller comme tu veux, c'est tout à la même température.
Très
y
juste.
Compris les cendres, si jamais tu parles de donc dans
crématorium, oui.
Hein
de ouais. Columbarium, voilà.
C'est tout la même température. Après, la sensation est différente, mais c'est tout pareil.
Mais bon,
c'est moche, mais c'est
sur la question faire son deuil, je ne sais pas, est-ce que je veux dire à la fois quelque chose d'une évidence. Mais est-ce qu'on fait véritablement son deuil? C'est ça, au fond. Ce que reproche précisément d'Astur à cette expression aujourd'hui, ce qu'elle reproche, donc cette philosophe, hein, Françoise d'Astur, à cet usage de cette formule et à cette injonction, à cet impératif, à ce commandement moral à faire son deuil, c'est que précisément, elle y voit comme, au fond, la volonté dans.
Dans, de passer, autre
voilà,
chose,
de passer très vite à autre chose. Et de ne plus inscrire, au fond, le mort véritablement dans nos vies. Hein.
Alors, non,
peut-être que votre Françoise, elle pense à ça, mais ça veut peut-être dire tout autre chose de faire son deuil.
Oui, non, mais de toute façon, il faut prendre aussi, de toute façon, ce que tu dis, un tel, que tu sois un écrivain ou un philosophe, comme une proposition. Hein,
oui, pas de voir c'est ça un comme processus que tout le monde a toujours fait. Et... Après, on met un mot dessus, c'est un nouveau mot.
On a toujours fait, sans doute pas différemment, sans doute différemment, je crois pas, non. On n'a pas toujours fait de la même manière.
Moi, j'ai le sentiment qu'on nous demande d'accélérer quand même.
Oui, voilà.
C'est 2 mois maintenant.
Ah, moi, je crois.
Oui. Oui, en plus, oui, oui.
Ça dépend des gens. Il y en a qui vont mettre des années et d'autres.
Un processus à et être en conscience de ce qui se passe. Pour moi,
hein. Oui, oui. Je ne suis pas sûr quand même pour le qu'il n'ait pas eu des évolutions dans cette dans la manière de faire ce deuil.
Mais qu'est-ce qui n'a pas évolué dans la société ? Tout évolue.
Oui, certes, mais on n'est pas, on n'a pas non plus à se réjouir nécessairement de toutes les évolutions.
On resterait dans les mêmes procédures.
Bien sûr, d'ailleurs, elle le reconnaît. À un moment, elle le reconnaît. Elle dit très bien que ce sont peut-être d'autres formes, d'autres manières de nouer des liens, de nouer un lien avec la mort à l'âge individualiste que nous connaissons aujourd'hui, sans doute.
Ouais, de fait. Il y a aussi le côté. Par rapport à la mort, où aujourd'hui on peut aussi choisir même notre mort, alors peut-être ça rentre dans le côté de tout maîtriser.
Bien sûr,
mais et avec l'euthanasie, tout ça, les gens. Il y a tout un débat et des lois mis en place autour de ça. Est-ce qu'on peut choisir notre mort ou pas?
C'est comment mourir, c'est pas choisir sa mort.
Il y a quand même aussi de ça, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là quand même. Est-ce que la mort, c'est simplement une affaire individuelle? Je pose la question. Est-ce que ça n'est qu'une affaire individuelle? J'ai pas à vous proposer là, de réponse définitive.
Moi, il me semble, dans ce cadre-là, est-ce que c'est individuel? Oui, on est face à sa propre mort. Donc ça, c'est le côté individuel. Mais par ailleurs, on est face à la mort d'être cher. Et ça, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je crois que...
D'ailleurs, Jean-Télévis dit on ne vit pas sa mort. On ne vit pas sa mort. C'est le sens, d'ailleurs, de toutes les réflexions d'Épicure. Et la mort est toujours en seconde personne, dit-il. Au fond, la mort, nous ne la percevons en réalité qu'à travers la mort de ceux qui nous entourent. Puisque notre mort, et ça va être l'argument essentiel d'Épicure, en fin de compte... dans la sagesse antique, de dire au fond, la mort et nous n'entretenons aucun rapport en réalité. Le seul rapport que nous ayons avec la mort, c'est à travers la mort d'autrui, la mort de nos proches, de ceux qui nous entourent, cette mort en seconde personne, comme l'appelle Jean Télévitch. Et parce que notre propre mort est proprement inanticipable.
Non, mais comment mourir si ?
Oui, après, effectivement. Oui, effectivement, mais là, autour, on n'a pas. On n'a pas à refuser effectivement ce que nous offre aujourd'hui la médecine comme possibilité justement de soulager, d'atténuer la douleur, etc.
Le suicide est quand même un rapport frontal à sa propre mort, c'est pas vrai. À celle des autres.
C'est vrai.
Ça serait peut-être intéressant de... Oui, la maladie aussi,
la maladie aussi.
Ça serait intéressant de savoir s'il existe de par le monde des cultures où le suicide n'existe pas, où le concept même n'existe pas.
Oui.
Mais avant le suicide, il était interdit. C'était un péché.
Oui, dans notre tradition.
Les gens qui suicidaient, ils n'avaient pas de croix cimetière.
Bien sûr.
Et c'est un garde-fou.
Oui.
Mais ce que des gens lui disent, il y a des cultures, je pense qu'en Afrique, il y a moins de suicides.
Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à propos de l'Afrique, le concept de suicide est quelque chose qui est apparu assez récemment avec l'occidentalisation de certaines peuplades, justement. Que le suicide était absolument inenvisageable il n'y a pas si longtemps.
Oui, parce que peut-être la question, peut-être que la mort est d'abord et avant tout vécue sur le mode de la communauté, enfin communautaire, peut-être aussi, c'est un des éléments. Ce qu'on constate, c'est quand même que, je disais aussi tout à l'heure hein, pendant la pause, la tranche d'âge qui se suicide le plus, c'est celle des jeunes, ce qui en dit peut-être, ce qui doit nous interroger aussi.
Et des gens très vieux aussi.
C'est faux ça, hein.
C'est faux ça.
Non, c'est les personnes âgées qui se suicident.
Ah oui, d'accord. Toi, tu es resté, je croyais, sur des statistiques.
Non, finalement, il y a beaucoup de gens, de personnes très âgées qui se suicident.
Parce qu'à un moment, tu as parlé des jeunes, je pensais que tu parlais de moi. Je donc...
Puis on n'est pas obligé de faire son deuil. On doit faire son deuil pour oublier et justement être de nouveau bien productif et essayer d'oublier, de continuer.
C'est essentiellement la critique que fait Daspio, c'est exactement ça.
On vit avec.
C'est ce qu'elle dit. C'est au fond la question qu'elle pose. Hein. Faut-il concevoir le deuil comme un travail à accomplir qui s'inscrirait au fond dans le mode de production de nos sociétés occidentales.
Oui, voilà, c'était un an qu'on devait rester avec
il y avait des vêtements noirs et tout.
Petite
tout.
Échelle de rapproche.
Juste après. Vas-y. Ah, bon, d'accord, elle te donne la parole.
Petite échelle, je rapproche du terme faire son deuil, de rebondir. C'est-à-dire qu'il faut toujours.
Oui, mais il faut toujours aller de l'avant.
Voilà. Et puis, les plus vite.
Et s'il faut toujours aller de l'avant.
C'est la question. La rapidité,
aller de l'avant, c'est parfois une fuite en avant. Ouais. C'est quand même caractéristique aussi un peu de nos sociétés, quand même. Est-ce que nous n'avons pas à entretenir un rapport déférent avec la mort, par le biais de la mémoire, etc. Bon. C'est ce que dit, au fond, aussi les ethnologues, les anthropologues. Au fond, les cultures ne se perpétuent que parce qu'elles nourrissent un lien différent avec précisément ceux qui les ont précédés. Il semble que nous soyons portés toujours de l'avant et dans cette volonté justement, comme si le présent n'était que la seule valeur qu'il n'y avait que le présent précisément à valoriser. Mais il nous faut nous interroger aussi sur la nécessité de ce rapport au passé et à la mémoire. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes oublieux de nous-mêmes en oubliant précisément ceux qui nous ont précédés? C'est le sens de ce que dit Chesterton. Hein. Il y a un historien du 19e siècle, j'aime beaucoup cette formule, parce qu'en plus, elle est très construite, très écrite, mais Fustel de Coulanges dans la cité antique, un grand historien du 19e siècle, disait au fond que les premières, je cite de mémoire, mais les premières métropoles ont été des nécropoles. Et c'est le sens de ce que dit Chesterton. Au fond, la vie ne peut se construire que si précisément elle est enracinée précisément dans
quelque chose. Le bouddhisme qui évolue à travers les âmes et qui ne s'arrête jamais, et qui n'a pas besoin de ce genre de...
Oui, ouais, il y a aussi d'autres traditions, on en parlait pendant le repas, d'autres traditions culturelles qui méritent d'être interrogées, hein, qui ont un rapport autre à la mort.
Les qui donnent les corps de leur mort aux oiseaux, enfin voilà, il y a d'autres visions aussi.
Tu voulais dire, Léa?
Ouais.
Et après, au fond.
Juste comme une réponse, un deuil, ça, c'est pas forcément quelque chose que tu fais en 3 jours, quoi, mais je pense quand même que c'est important de continuer de vivre, parce que la mort, ça fait partie
de la vie.
De ce qu'on vit. On va perdre nos parents, on va perdre quelqu'un qu'on aime, et de rester sur cette perte. Et je parle de ça parce que j'ai une collègue qui a perdu son fils il y a un an et demi maintenant, elle n'est pas revenue. Elle est bloquée là-dedans. Elle ne vit plus. Et pour ça, si on arrive à vivre avec d'une manière, oui, je me rappelle celui ou celle-là derrière moi. Et j'ai partagé ça avec, et c'est faire sa paix avec la disparition de ce être. Et je pense que c'est important.
Oui, l'idée c'était que peut-être nous serions moins armés aujourd'hui pour affronter la perte. C'est possible, c'est simplement au fond un constat.
Mais parce que
nous serions peut-être moins armés aujourd'hui pour affronter l'indicible qui est précisément la mort. Quand le gendre dit au fond, est-ce que c'est qu'une culture, c'est ce qui essaye d'habiller l'abîme, hein, c'est-à-dire au fond de le rendre habitable et viable, au fond parce qu'effectivement, nous allons mourir tout à l'heure.
on lisait quelques passages de Stieg d'Allurman. Bon, c'est évidemment. Je suis pas sûr que le meilleur remède à la vie soit la mort. Hein. Mais comment il nous faut vivre avec ça. Et ce qui est sûr, c'est que certains sont moins armés que d'autres pour ça. Si tant est qu'on peut considérer que quelqu'un soit suffisamment fort pour affronter ça, mais il est possible peut-être que c'est aussi à la société de nous donner des moyens justement d'affronter ça. Et peut-être que nos sociétés ne nous donnent plus véritablement les moyens pour affronter ce qui ne peut pas être surmonté sans doute. Enfin, bon, on peut difficilement se représenter enfin, la mort d'un enfant, par exemple. Soi-même, on peut tomber dans des discours effectivement faciles, mais que faire avec cette perte? Peut-être que des cultures, peut-être que dans nos sociétés même, à un certain moment de leur développement, on avait davantage justement de moyens pour essayer au fond de border l'abîme. C'est ce que dit le genre. Au fond, tout ça, c'est que hein, nous sommes toujours au bord du gouffre. Hein. Et on voit bien, hein, c'est ce que dit le gendre, à un moment donné, de toute façon, il faut toujours une raison de vivre. On ne vit que parce qu'on a une raison de vivre. Et la raison de vivre, elle est parfois chancelante, au point que, justement, certains chancèlent et tombent dans le gouffre, hein, avant même que la maladie ou que le destin les emporte.
Oui.
J'aurais voulu intervenir à propos de ce deuil, de ce temps de deuil. Et je me rappelle qu'autrefois, surtout les femmes, si je ne crois ne pas me tromper en le disant, quand elles vivaient le deuil de quelqu'un de proche, étaient parties pour être un mois ou trois mois, je ne sais plus, en noir total, après cette période-là, c'était quelque part une façon de dire attention, je vis quelque chose de difficile, voilà. Ménagez-moi. Mmh. Ça évitait les veuves joyeuses et ce genre de choses. Mais c'était aussi un poids pour la personne qui devait s'astreindre à cela. Et qu'on a peut-être essayé de virer cette façon pesanteur, de faire en virant les bons côtés.
Oui, ouais, c'est, je pense, en substance que tu dis.
Quelqu'un qui vivre vraiment son deuil à son rythme, avec ses souffrances, ses rémissions, etc., n'est pas quelqu'un de productif dans la société. Donc c'est très mauvais. Et que donc c'est le deuil, dimension. On va le bâcler. Mmh. Et je crois qu'on est là à une
période. Parce qu'en montrant son deuil, le sujet ne. Au fond. Le donner aussi à l'ensemble de l'offrir.
L'imposer.
L'imposer, oui. Mais enfin, en tout cas, le présenter à l'ensemble de la société.
Oui, mais l'imposer à ses proches aussi.
Et oui, alors ça, c'est effectivement ce qui apparaît comme désormais intolérable. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, et encore une fois d'Ascure, au fond, on assiste à une psychologisation du deuil et un renfermement, au fond, dans l'intime. Et la perte justement de cette dimension collective. Bon, c'est simplement, encore une fois, un constat. Hein.
Encore une tentative. Fois, il semble que ce soit une question d'équilibre à trouver et que notre époque ait perdu cet équilibre. Moi, je vois les choses un petit peu comme ça.
Ouais.
Je sais pas, je pense à une scène dans Tozzo Larzac, vous avez sûrement vu le film. Ouais. On voit Marisette Tarrier, l'épouse de Guy Tarrier, qui a été un des grands animateurs de la vie de l'enfer. Ouais, elle est filmée dans le cimetière, près de la tombe de son mari. Et elle dit avec beaucoup de force, je refuse de faire le deuil. Ça rejoint un petit peu cette obligation de passer très vite à autre chose.
Oui, c'est ça.
Alors, ouais. À la fois, il faut avoir le temps de digérer les choses, de ne pas les garder en soi, ce qui serait la pire des choses, et en même temps de passer à autre chose. Ouais. Et je crois que la société actuelle n'est plus dans
le rythme
de ces alternatives. On bâcle les choses.
C'est un peu le sens de ce que
fait. Une chose très significative. Vous dire, vous autrefois, tous les morts passaient chez eux. On les retrouvait sur le lit de leur chambre à coucher. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas ça, j'en sais rien, moi. Mais c'était important pour les gens. Que le mort, on se l'approprie jusqu'au bout. Maintenant, on va. Alors, ça, je trouve ça horrible, par contre. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Les fameuses chambres funéraires.
Quelle horreur.
quelle horreur de le partager comme moi. Voilà, mais voilà un exemple de.
Et ça, c'est en quelques décennies. Moi, j'ai veillé mon père, à la mort de mon père, je l'ai veillé plusieurs nuits, effectivement. Est-ce que ça se fait encore? Je pense qu'on peut effectivement encore le faire, effectivement. Mais enfin, de moins en moins, puisqu'il est mort à la maison aussi. Et de moins en moins, on meurt chez soi. Il semblerait qu'on revienne un peu à ça, effectivement aussi. Mais je crois que oui, vous dites bien les choses, là, il me semble, effectivement.
Je peux dire, rapidement, qu'une des plus belles périodes de ma vie, c'était la semaine où nous avons sorti ma maman de l'hôpital contre l'avis de Toby, que vous n'y arriverez pas. Et à tout
l'accompagner.
Et ça, on s'est relayé pendant une semaine. Et maman est morte chez elle. Et ça a été pour nous tous très beau. Voilà, je ne sais pas ce que je suis en train de prouver là, mais voilà, ça me paraît.
Oui.
On s'est dit au revoir, voilà, il me semble.
Ce qu'il a dit, c'était la question que j'avais posée. C'est, tu parles de ton papa, c'est ça?
Oui.
Et donc, tu l'as, plusieurs jours, tu l'as
Ah oui, ben avec la famille, hein, avec mes autres frères et sœurs.
Et ça t'a apporté quoi?
Alors, non, pas du tout, parce que c'est aussi intéressant, parce que quelque part, ça participe aussi de ces gestes rituels, au fond, qu'on est contraint, au fond, de faire, effectivement, par la force de la communauté, de la collectivité.
On est contraint.
Oui, il y a cette dimension, évidemment. Il y a aussi cette dimension. Il y a... Il y a une dimension purement là où c'est moins l'individu qui s'exprime que la collectivité en réalité qui s'exprime, en réalité, hein, à travers tous ces rituels, etc. C'est moins l'individu qui s'exprime en son nom propre que justement la collectivité qui se réaffirme, qui réaffirme son poids. C'est un fait. Il y a aussi une dimension, effectivement. Oui, subjectif, personnel. Mais bon, c'est... Comment dire? Ça semblait difficile de faire autrement, mais à la fois, je ne me suis pas posé aussi comme cette question. Bon, ça participait aussi du respect, de l'amour, et puis aussi de la volonté aussi de ne pas...
J'aimerais poser une autre question, et pardon si ça te dérange.
Non.
Lorsque tu as veillé ton papa, est-ce que tu as eu l'impression de l'accompagner dans quelque part? À quoi ça sert de veiller? À quoi ça sert?
C'est pas matériel.
Non, mais c'est une question. Attends, je...
Oui, d'accord.
Je suis très vilain.
Le mot servir,
c'était de la gratitude, quelque part aussi, quelque part. Enfin, nous avons ce que notre monde perd aussi, c'est la gratitude pour ceux qui nous ont précédés, nous ont élevés, etc. Il se trouve que je suis papa depuis peu, et l'une des réflexions que je me suis fait, mais à la fois c'est bien normal d'avoir tous ces soins et de prodiguer tous ces soins aux enfants, mais je me faisais cette remarque, avoir un enfant et voir tous les soins que cela exige, c'est bien normal, parce que nous sommes là totalement démunis, hein, dans les premiers instants de notre vie, mais qu'avoir des enfants, ça nous conduisait à aimer davantage nos parents, nous-mêmes, de voir que précisément tous les soins qu'ils ont dû nous prodiguer pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc de la même manière, au fond, c'était pour moi une forme de gratitude que de veiller aussi, de cette manière. Est-ce que j'ai fait mon deuil? Bon, il se trouve que maintenant, je suis très loin. Moi, je suis du nord de la France, et c'est un peu difficile, précisément, de m'y rendre, hein, toujours. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un instant, pas une journée où j'y pense, et en particulier là, au moment où effectivement je vois ma fille grandir, etc., où elle se pose la question, elle ne voit pas son autre papy, etc. Donc on y met des mots là-dessus, mais nécessairement on y pense. C'est pour ça que faire son deuil comme quelque chose qui serait d'un mécanisme d'un commandement, effectivement, me paraît, comme pouvait paraître à Dastur, de l'ordre, effectivement, d'une... de quelque chose de purement mécanique, vidé de sens. Et qu'au fond, au contraire, eh bien, à jamais, nous serons accompagnés par... les morts nous accompagnent, au fond, d'une certaine manière. C'était ça aussi le sens des rituels. C'est que nous, hein, à un moment, je ne sais plus, Auguste Comte qui dit, voilà, l'humanité est faite de bien plus de morts que de vivants, et la communauté des hommes, elle n'est pas simplement faite des vivants, mais aussi des morts. Enfin, j'ai depuis peu un jardin, je vais le faire, je vais le cultiver un petit peu avec ma petite fille de 5 ans parce que je veux qu'elle cultive quelques carottes pour son doudou, c'est un lapin, voilà. Mais aussi parce que j'ai en souvenir toutes ces heures que j'ai passées avec mon père dans le jardin, et ça, c'est pratiquement la première pensée qui m'est venue. Mais ça nous accompagne, c'est pas quelque chose de mécanique. Et puis il y a des périodes où j'oublie, où il n'est pas présent du tout, hein, j'oublie, où au contraire je suis extrêmement sévère par rapport à ce qui pouvait être aussi. Et ça, bon, c'est... Au fond, il y a dans cette volonté de faire son deuil, vous voyez, encore une fois, cette idée d'escamoter, de passer à autre chose, de toujours aller de l'avant, hein, C'est ce qui, au fond, peut-être caractérise notre époque. Ne plus ce rapport déférent précisément au passé, à la mémoire. Ce qui importe, c'est le présent, hein, le seul présent qui seul permet d'ailleurs et qui permet de juger le passé et de le considérer comme toujours en dessous. Non, le passé est parfois supérieur à ce que nous vivons aujourd'hui. Hein.
Non, vas-y. C'est toi. Oui, vas-y.
Moi, je voudrais ajouter une réflexion à toutes celles que tu nous as proposées et que j'ai beaucoup appréciées. Tu as beaucoup mis l'accent sur le, je dirais à la fois le rapport à notre propre finitude. Mmh. Et ce qu'on en fait individuellement et collectivement, et le rapport au passé. Et moi, je ressens aussi, je me rends compte que quand j'accompagne un proche qui est en train de, qui manifestement est en train de mourir et le sait, j'ai l'impression d'accompagner quelqu'un qui part vers un nouveau voyage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une finitude, mais il y a un au-delà. Je n'ai aucune appartenance religieuse. Je veux dire, c'est plus une conviction humaine générale, un peu concernant, que une référence à une religion particulière. Et je sais que quand je fais le discours public à la personne qui part, je termine toujours par bon voyage. Parce qu'il y a un voyage. Donc c'est-à-dire qu'il y a la finitude, mais il y a aussi la mort qui est un passage. Ce que tu as peu évoqué, dans les références que tu nous as proposées, mais je voulais ajouter cette dimension-là qui, de mon point de vue, existe.
Je te prie, un passage vers où ?
Ah, mais c'est pas parce que je ne sais pas qu'il n'existe pas.
Les hindouistes pensent qu'on renie l'incarnation.
Je n'en sais rien, mais je ressens que ça existe, même si je l'ignore.
Joël.
Oui, moi, par rapport à ta question tout à l'heure, ce que je pense, c'est d'accompagner quelqu'un qui meurt, de l'avoir à la maison et d'être à côté, de se relayer ou d'être à côté, c'est lui signifier aussi qu'il est toujours vivant.
Oui.
Et que tant qu'il est vivant, et ben, il reste parmi les vivants et il vit parmi les vivants. Et ça, c'est hyper important. Et ça aide le vivant et ça aide le mourant.
Ouais. Je pense à une scène d'Ivan Illich à Tolstoï où précisément là, il voit bien qu'il va mourir, hein, terrible parce que tout ça est absurde, etc. Et surtout, il voit bien qu'au fond, il faut qu'il meure le plus vite possible parce qu'il commence à déranger très sérieusement, hein, dans la maisonnée, quoi. Et effectivement, il y a ça, hein, au contraire, hein, donner ce sentiment que quelque chose est encore à vivre. C'est au fond le sens aussi de ce qu'on met, des soins palliatifs, etc., de cette idée que précisément quelque chose mérite peut-être encore de vivre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas utiliser les moyens que l'offre la technique ou la science pour soulager les douleurs, etc., mais que jusqu'au bout, il y a quelque chose à vivre.
Francis, oui.
Oui, moi je voulais dire plusieurs choses. Il me semble que aussi quand il y a le décès de quelqu'un, pas dramatique, par contre, c'est dans l'ordre des choses. C'est des moments où, d'une certaine manière, on saisit un petit peu mieux ce qu'était l'essentiel de la personne qui s'en va. Je sais pas comment dire, il y a plein de... Les détails s'en vont, on pourrait dire, et on a là le disque dur de la personne, on pourrait dire. Oui. Et ça, c'est une chance, parce que c'est pour ça que c'est des moments, je pense, qui nous fascinent un petit peu, parce que si on a la capacité de saisir ça, on saisit un petit peu la gerbe d'une vie, un peu, je sais pas comment on pourrait dire, ça, on saisit un truc, ce qu'a été réellement la personne, au-delà de ce qu'elle vous disait, au-delà de ce qu'elle faisait, ce qu'elle était, quoi. Ça, je pense qu'il y a de ça. La deuxième chose par rapport à l'évolution qu'il y a par rapport à se disposer à vivre la mort et tout ça, c'est que je pense jusqu'à une certaine époque, alors à mon avis c'est quand même beaucoup lié à l'urbanisation et donc au déclin de la ruralité.
Oui, je pense aussi.
Je pense qu'il y a un lien énorme.
Bien sûr.
C'est que je pense que jusqu'à une certaine époque, l'individu était épaulé par la société pour dire je suis triste, pour dire j'ai ça le coup, tout ça. Et à partir d'un certain moment, il n'y a plus cette aide. Et du coup, l'individu a deux solutions. Ou bien il prend sur lui-même de continuer à vivre ce truc-là et de l'afficher, ou bien il se cache. Et c'est ce qui se passe. Moi, je ne crois pas que c'est la société qui impose de la rapidité, tout ça. C'est plutôt que l'individu n'a plus, comment dire, étant livré à lui-même, n'a plus la capacité de dire, mais moi, il me faut ce temps-là. C'est une espèce de...
Le fait qu'il ne soit plus épaulé, comme vous dites, ça montre effectivement quand même un certain nombre de changements dans la manière dont la société organise.
Alors, je vais vous dire un truc. Est-ce que, peut-être vous le savez, mais par exemple, l'incinération, ça s'est imposé en milieu rural, et quelle est la raison qui a fait ce truc-là? Il n'y avait pas des raisons objectives. Qu'est-ce que c'est qui a fait qu'il n'y a personne, il n'y a pas les mairies qui ont obligé ça? C'est devenu les individus qui ont choisi ça. Alors qu'est-ce que c'est qui a fait ce déclic? Je ne dis pas que je suis pour ou contre, j'observe le truc. Et ça, je pouvais penser qu'un milieu urbain.
Ouais. Alors que ça coûte plus cher.
Il y a quand même dans l'idée qu'il faut.
Il n'y a pas la société qui l'a obligé, là. C'est un phénomène.
Il y a l'explosion des familles aussi. L'entretien du taux.
Voilà, c'est ça, j'allais dire. Il y a aussi cette idée de ne pas rester, être une charge pour les familles, pour l'entretien des familles. De la même manière qu'on va s'empresser, on va tout faire en sorte d'organiser déjà ses propres funérailles et s'acquitter de tous les frais pour ne pas être une charge pour les enfants.
Débarrasser le plancher.
Et ouais, aussi, et débarrasser le plancher dans les...
Proprement,
ouais. De la meilleure façon. Non, mais c'est vrai, quand même.
Mais oui,
il y avait des
sannes
en fait
de
la lessive.
Mais oui, ça marche.
Alors, ça me rappelle un autre truc, c'était Jean Moreau, je crois, qui disait, enfin, c'est le terme, je crois. Elle parlait de la mort, justement, et elle disait généralement, on voit la vie comme un truc comme ça, c'était à 50 ans, on dégringole de l'autre côté, parce qu'on commence à être vieux et tout ça.
3 ans, il me reste.
Voilà, la vision habituelle qu'on a de la vie, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est le tourmalet, si vous voulez, puis on reste. On reste à dégringole, et puis on va dans le trou. Voilà, c'était ça. Et elle disait, moi, je ne la vois pas comme ça. C'est un truc qui monte tout le temps. Et je trouve que la manière dont on conçoit la vie, et dont on envisage la vie, ça détermine la manière dont on voit la mort. Dans le premier cas, quand on va dans le trou, ça veut dire que la vie, ça pas, le type qui va dans le trou, il n'y a pas grand sens, il n'y a pas grand chose à tirer, il n'y a plus rien à
tirer. Quand même, nous avons un rapport à la vieillesse, à ceux qu'on n'a plus nommé les vieux, ce sont les seigneurs maintenant, on a un rapport aussi aux vieux, pardon, à l'opposé du terme, quand même très particulier quand même.
Ça détermine la manière dont on conçoit sa propre vie.
Tu avais levé le doigt tout à l'heure.
Oui, la manière dont on conçoit la mort.
Voilà, dans le prolongement d'intervention, de plusieurs interventions d'ailleurs, et sans porter de jugement de valeur, je voudrais quand même rappeler l'existence, vous ne pouvez pas parler de tout, mais ça me paraît quand même un volet intéressant, de tout un courant actuel, NDE, porté par l'américain Moody, le docteur Moody, largement relayé en Suisse par Kubler-Ross, Elisabeth, qui, je ne crois pas me tromper de nom, ah, oui, qui est une des pionnières des soins palliatifs, qui sait quand même de quoi elle parle. Il s'agit grosso modo d'établir des statistiques de ce qu'on appelle les aux frontières de la mort. Voilà, moi j'ai pas de... ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas d'opinion. Mais ça voudrait dire que envisager un au-delà, c'est pas complètement stupide non plus.
Voilà. Oui. Ah oui, les gens qui font le petit aller-retour juste un peu de l'autre côté, qui reviennent, c'est ça.
Les expériences, oui.
Chevènement a fait ça.
Ah oui, c'est vrai.
Non, on rigole, mais...
Oui.
Et il revient de loin, c'est vrai qu'il revient de loin. Il était à l'article de la mort, quand même. Hein.
Mais oui. Léna, et ensuite...
Mais cette question de qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, c'est quelque chose qui a intrigué l'humanité depuis qu'elle est humaine. Quoi. Tu peux remonter dans la préhistoire, tu peux remonter dans toutes les sociétés partout dans la Terre. Il y a Dieu, parce que l'homme, on a vachement besoin de la déesse ou des démons ou des forces. L'homme, il est face à cette dernière inévitable voyage, il est démuni. Et il cherche à construire une raison désespérément. Tu peux aller dans toutes les cultures où tu veux, sur le monde, et dans l'espace du temps.
C'est le sens.
L'homme se fait une raison pour cette fin.
C'est ce que dit le gendre, hein. Tous les montages culturels, tous les édifices culturels sont précisément tentatives pour justement border la vie, tenter de donner réponse à ce qui n'en a pas.
Enfin, c'est
la peur de l'inconnu. Moi,
ça paraît simple de le dire, mais je pense que c'est profond.
De voir de l'autre côté, j'avais une collègue, quand j'étais à Cologne, à l'université, elle travaillait le week-end dans un hospice pour femmes qui étaient en fin de vie, et elle m'a dit, tu sais, celles qui s'accrochent à tous les, à chaque minute de leur vie, ce sont celles, c'était que des femmes, qui ne sont pas contentes avec leur vie, celles qui ont vécu, qui sont contentes avec leur vie, elles partent tranquillement. Et c'est ça que je trouve important. Il faut de chercher la raison au-delà. Ça existe pas. On ne peut pas le savoir.
Je pense à
aujourd'hui, ils vont bien.
Je pense à une réflexion qu'a fait Nicolas Grimaldi, qui est le philosophe Nicolas Grimaldi, qui est lui-même au crépuscule de sa vie. Hein, il est un âge certain.
Au zénith, alors.
Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, quand même. Hein, parce que... Et que dit-il, au fond, est-ce que c'est que la peur de la mort, qu'est-ce qui la motive essentiellement? C'est, dit-il, si mes souvenirs sont bons, l'inachèvement d'un destin.
Ouais.
Au fond, l'idée que tant de choses qu'on pouvait, qui nous semblaient être, que nous pouvions être en mesure de faire et qui n'ont pas été faites. Et c'est ça, au fond, qui fait que la mort nous angoisse, parce qu'au fond, nous avons le sentiment d'un inaccomplissement. Et tout à l'heure, j'évoquais un Allemand, Kant, qui dit au moment sur le son lit de mort, hein, la légende le rapporte, « Alles ist gut », tout est bon, tout est bien. « Alles ist gut », tout est bien.
J'ai une question un petit peu... est-ce que ce soir ici, est-ce qu'il y a un vieux ici?
Avec des jeunes?
Il n'y en a pas.
On peut être vieux très jeune. Hein. J'en suis un exemple. Un vieux con très jeune.
Hein. Un vieux con?
On peut être un vieux con très jeune.
Non, mais on peut être vieux tout court sans être con.
J'ai les deux tas.
Tout le monde est jeune une fois ou l'autre dans sa vie, c'est vrai.
Ouais. Non, mais... Ouais, alors bon, tout dépend, après, comment on perçoit ça. Hein.
La vieillesse. Hein. Ouais. Quand est-ce qu'on est vieux?
À 3 ans, pour un gamin de 1 an, il est vieux, celui de 3 ans.
Ça, c'est vrai.
Ouais. Heidegger a dit, dès qu'un humain vient à la vie, il est assez vieux pour mourir.
Ouais. Comme c'est bien dit. C'est un sacré raccourci.
Non, ça résume pas tout.
Je me casse.
Il faut aussi se mettre en, enfin, il faut se rappeler quand même que je lisais ça récemment. 6 à 7% d'une classe d'âge au XVIIe siècle atteint une espérance de vie de plus de 40 ans. Quel est le rapport au temps que l'on a quand précisément on vit 30 ou 40 ans? Je dis souvent aux élèves, lisez, j'étais en train de relire l'année dernière.
Mozart.
Quoi donc, j'ai oublié. Non, la Chartreuse de Parme. Et malheureusement, le personnage m'échappe. La tante, bon, peu importe, elle a 30 ans, ça a été écrit, elle a 30 ans et elle est déjà trop vieille pour paraître dans les salons. À 30 ans, on est trop vieille pour paraître dans les salons. Aujourd'hui, on pourrait dire une femme atteint tout l'éclat de sa beauté à 30 ans.
Oui, mais les mannequins ont 15 ans.
Comment ?
Les mannequins ont 15 ans.
Oui, maintenant.
Oui, oui.
Ça n'a pas beaucoup changé.
C'est vrai. Il y a 30 ans, ils ont fini leur carrière. Non, mais ce rapport au temps. Et la médecine nous promet quand même, sans que ce soit là totalement de la science-fiction, une espérance de vie, on peut dire tout à fait raisonnable de l'envisager d'ici un avenir, dans un avenir assez proche. Autour de 135, 150 ans.
Ça régresse en ce moment, on régresse.
Oui, non, mais de manière.
Sociétalement, effectivement, on régresse.
Oui, mais enfin, ce que la science.
En bonne santé.
Oui, oui, oui. Ce que la science et la technique peuvent nous offrir aujourd'hui, assez raisonnablement.
De façon élitiste.
Non, mais je suis d'accord. Mais quel est le sens, justement, de cette.
Pas pour tout le monde.
La religion nous offrait l'éternité, aujourd'hui la science et la technique nous offrent la longévité. Bon, quel est le sens de cela? Est-ce encore une fois quelque chose de...
Mais justement, la médecine ne rend pas service des fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cancers et tout, qui espèrent, qui espèrent, qui espèrent, et ça finira pas. Ils guériront.
Oui. Il faut
donc
quand même.
On mise tout sur la médecine.
Oui, enfin, il faut quand même reconnaître que si nous pouvons atteindre une espérance de vie grande aujourd'hui, c'est grand, très largement grâce au développement de la médecine, grâce au progrès de la médecine, inévitablement, et aux soins qui nous sont prodigués. Hein. Mais bon, c'est vrai que. Mais. Il y a effectivement une question à se poser. Quel est le sens d'une vie qui. Que de vivre hein, jusqu'à 130, 150 ans.
Si on mange plus de murs.
Une autre mort. Et de saucisses.
Saucisses.
Un autre rapport au temps. Un autre rapport au temps.
Oui, Elina, tu voulais dire.
Justement, à quoi ça sert de tout le monde espère de vivre longtemps.
Et oui,
mais
aussi,
le prix, c'est être vieux. Et à quoi ça sert une vie? Quand je vois mes beaux-parents qui se lèvent le matin, qui font du déjeuner, après ils attendent jusqu'au déjeuner, après ils dorment un petit peu, et après ils attendent le repas du soir.
Mais ils attendent ta visite.
Mais écoute,
Ouais, mais enfin,
pour faire ça, on n'a pas besoin de vivre 150 ans.
Mais oui, mais enfin, vous le percevez, vous le jugez. Vous jugez ça par, oui, par rapport à vos propres aspirations. Peut-être que la retraite, c'est pouvoir avoir la chance et le loisir d'attendre. Que ça se passe. L'épaisseur du temps. D'apprécier l'épaisseur du temps.
Je vous l'ai déjà raconté.
De rien faire, enfin.
J'ai lu une histoire sur le monde disque. C'est un scientifique. Un mec anglais qui a écrit de science-fiction un peu rigolote. Et lui, il a construit un monde où on peut acheter des années. Tu travailles pour t'acheter des années pour vivre plus longtemps.
Non, des annuités. Des annuités. Des annuités.
Et,
oui,
dans, 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 Le résumé, en gros, c'est le premier 100 ans, les gens vivent super prudemment parce qu'ils veulent vivre longtemps, alors on ne fait pas de conneries. Bon, après 100 ans, on a presque tout fait. Alors, ils commencent à faire des trucs qu'ils n'ont pas osé de faire jusque-là.
Ils fument des joints, ils
sont moins prudents et ils font des trucs plus risqués. Entre 100 et 200 ans, ils se défoulent un petit peu. 300 ans, il y a peu qui arrivent parce que tôt ou tard, ils font des trucs qui sont trop risqués et ils meurent. Ben, juste pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces années qu'on gagne?
J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que ça veut dire, connerie? Je comprends pas.
Connerie. Heureusement que nous ne connaissons pas le moment de notre mort. Il n'y aurait rien de plus terrible. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas de société possible. Hein. Imaginons. Pas mal. Vous connaissez le jour exact de votre mort. C'est intenable. Justement. Hein. Vous faites tous les cas sans tout. Je reprends le terme, vous baisez, etc. Ça devient un grand lupanard, etc. Des meurtres partout. Si vous connaissez, heureusement, au fond, nous n'avons pas cette connaissance. Il n'y aurait pas de société possible, d'ailleurs. De vie sociale, de vie tout court, possible. Si chacun connaissait très exactement le... Ça surprend toujours à la mort.
Alors la science me rendra-t-elle immortel?
C'est en tout cas ce que suggère ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Ce sont des espèces de projets scientifiques défendus par un certain nombre de tenants des biotechnologies, etc. Les possibilités qui sont offertes aujourd'hui par ces biotechnologies permettent de penser à la création effectivement d'un homme nouveau, de celui qu'on appelle l'homme augmenté.
Oui, mais l'homme augmenté pour quelques-uns, parce que ce qu'on met toujours de côté là-dedans, c'est les différences de richesse.
Bien sûr, tous nous mourrons, mais il est faux de dire que nous sommes égaux devant la mort. Au fond, tout à l'heure on parlait autour du repas, je sais plus, être mineur au 19e siècle offre moins la possibilité de vivre vieux. Hein. Être ouvrier un peu moins que...
Aujourd'hui encore,
mais ailleurs. Mais ailleurs.
Mineur.
Il y a une inégalité ontologique, c'est ce que dit Kundera. La terrible, c'est qu'il est donné à quelques-uns, qu'on a sur la table, il est donné à quelques-uns une immortalité qui nous est refusée à tous. Et ça, dit Kundera, je ne sais plus dans lequel, je crois que c'est dans l'immortalité.
Mais à terme, c'est perdu, le transhumanisme. À terme, c'est perdu. 3 milliards
dans le nez,
il n'y a plus de terre. Hein,
ah oui,
3 milliards dans le nez, c'est pas mal.
On explore d'autres mondes.
Et n'oublie pas l'oxygène de Chouri. C'est la dernière nouvelle apparue aujourd'hui ou hier, rendue publique au moins. Ils ont trouvé de l'oxygène respirable sur Chouri.
À quelle distance, combien de...
Mais sur la comète, tu sais, qu'on est allé chatouiller là.
Ah oui, celle qu'on a.
Voilà. Ils viennent en analysant. Il n'y a pas beaucoup de place, mais quand même...
Si on a une, il y a peut-être... Voilà.
Il y a la place pour respirer pour un, peut-être, pendant un certain nombre d'années, mais bon, voilà.
Un arche de Noé, on fera un arche de Noé.
Oui, le transhumanisme ne veut pas dire obligatoirement garder son corps. On peut peut-être mettre le cerveau ou l'âme, ou je ne sais pas comment...
Ah, tu nous rassures.
Sur un robot. Et l'envoyer...
Alors là, on ne baisse plus, on ne baisse plus. Hein.
Oh, mais c'est dans le cerveau que ça se passe, tu le sais.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a des cérébrales.
Oui, vas-y, Francis.
Derrière ça, il me semble qu'il y a une question, c'est est-ce que le développement des capacités intellectuelles, physiques, la longévité, tout ça,
s'accompagne d'un développement, j'appellerais ça éthique ou moral.
Oui, ah c'est toujours la question.
La question,
ouais,
c'est,
la question philosophique par excellence.
Ouais. C'est pas évident.
Mais c'est très clair, tu t'en aperçois tout
de suite.
D'où l'idée, tu m'es venu un peu à la première rencontre de ce titre, hein, avons-nous fini avec la mort, ben, rien n'est moins sûr, il faut espérer que non quand même. Ouais. Même si après, il y a des aspirations, l'effort légitime aussi des individus quand même à vivre mieux et bien.
Ah oui.
Ça, on ne peut au pas non plus l'enlever et simplement accabler la société, la science, etc. Il y a d'abord aussi une aspiration profonde des individus. Est-ce qu'elle n'est pas légitime aussi, d'une certaine manière, bien sûr. Mais quelles en sont les incidences et conséquences? C'est au fond ce qui mérite au moins d'être posé. Après, vous voyez bien, hein, toutes ces questions sont difficiles à apporter même des réponses. Mais, bon, ça, effectivement, ça...
À mon avis, le fait d'être... d'avoir des rituels, par exemple, collectifs, communs, communautaires, par rapport à la mort, c'est une manière de ressouder le lien social, ce truc. Et
de plus en plus,
ce genre de choses est traité individuellement, il y a vraiment, quelque chose qui se dessoude de la tête.
Et donc les individus sont de plus en plus seuls avec leur peine, avec leur souffrance, etc. Et le deuil est d'autant plus difficile à faire, d'une certaine manière, paradoxalement. C'est un peu le sens.
On n'a plus le sentiment d'appartenir à une grande échelle.
Bon, maintenant on peut poser la question, est-ce pas un bien que d'avoir justement... défait tous ces rituels. Hein, bon, on sait, on peut se... Hein, si on est là dans une vision progressiste des choses, considérer au fond que l'humanité est enfin libérée, l'individu est enfin émancipé de tout. Libéré, bon, c'est la question que pose à un moment, Jean-François Lyotard. Bon, nous sommes émancipés, libérés, pour autant sommes-nous libres, hein, bon. On le voit bien d'ailleurs, hein, moi qui travaille avec des élèves, hein, que j'appelle encore des élèves et pas des jeunes, parce que aussi le tort de l'éducation nationale, c'est que les profs n'ont plus affaire à des élèves, mais désormais à des jeunes de plus en plus. Mais bon, avec mes élèves, c'est effectivement de se demander si leur demande légitime d'indépendance leur donne... Est-ce que ça leur donne véritablement les moyens de leur liberté et de leur autonomie? Bon. Mais c'est un vaste débat. Ça interroge aussi toutes nos propres aspirations politiques, etc. Hein. Mais bon... C'est...
Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience, puisqu'il y a maintenant... Pardon.
Oui, pardon.
Mais vas-y, Pierre-Pré. Oui, vas-y.
Je crie personne?
Non, mais tu...
Non, mais je... On a toute la vie devant nous.
Il y a des... Il s'organise des cérémonies laïques pour accompagner et faire enfin une cérémonie d'enterrement. Enfin, Donc je pense que la société, elle se questionne aussi, et elle n'est pas monobloc.
Il y a
des prises de conscience, et il y a des choses qui se mettent en place. Enfin, je sais qu'à Rodez, la mairie, il a été demandé, enfin, ça fait longtemps que ça se travaille, et que maintenant, il y a une salle pour pouvoir faire une cérémonie laïque pour les décès de personnes qui ne veulent pas aller à l'église, parce que... On se trouvait devant la... Et on se trouve encore dans beaucoup d'endroits, devant le fait que si on n'est pas... On n'a pas une croyance et qu'on ne va pas dans une église ou un lieu de culte quelconque, eh bien, on ne peut pas avoir de cérémonie et de choses, de célébration de la personne décédée, quoi.
Donc, il y a toujours un peu de religiosité, même dans les pratiques les plus laïques.
Et ce n'est pas de la religiosité. La cérémonie, le terme cérémonie.
Non, c'est du rituel.
Mais le rituel, ce n'est pas obligatoire.
C'était provocateur.
Ah oui, c'est réussi.
Ah oui.
Il ne connaît pas.
Ah non, c'est pas. Alors, sans savoir, j'ai pointé là où il fallait.
Plus sérieusement, je crois qu'on ne se débarrasse pas si facilement justement du spirituel et du religieux. Je ne dis pas qu'on ne devons ça, ça pas nous défaire des religieux.
Le rituel n'a pas
le religieux est bien plus que les religieux. Mais c'est une question. Hein.
Oui,
ouais, je voulais rebondir sur cette question de rituel. Qu'est-ce que ça pourrait être qui pourrait nous consoler dans le moment le plus dur? Qu'est-ce que ça pourrait être qui nous ferait du bien pour les gens? Bon, il y a certainement ceux qui croient en Dieu, en Jésus, je ne sais pas quoi, qui trouvent leur paix avec ça, mais pour ceux qui, comme moi, qui ne croient rien...
Vous connaissez peut-être...
Il n'y a rien qui nous unit.
J'ai peut-être posé ma question, papa.
Ça m'évoque, là, comme ça, mais c'est une association
d'idées. C'est pas une question rhétorique, c'est vraiment une question. Qu'est-ce que ça peut être qui nous pourrait faire du bien dans ce, que nous, comme, pourrons développer?
Mais il me semble que vous avez répondu vous-même tout à l'heure. Hein, savoir que la personne qui part a eu une vie remplie. Voilà.
Déjà, permettre que des témoignages puissent se faire sur la personne qui rend hommage. Déjà,
témoignages,
oui, c'est. D'écouter un chant qu'elle aimait, par exemple, ou un texte qu'elle aimait. Voilà, moi je crois que c'est ça.
Et se retrouver.
De permettre qu'il y ait une petite organisation qui permette ça.
Enfin, c'est frappant aussi de constater que dans les offices religieux, par exemple, c'est très particulier quand même aujourd'hui un enterrement. Place est faite de plus en plus précisément. Non, mais il y a la personnalité du patient. On va du patient.
Il a plus besoin de
patient. Il est plus patient. Il est plus patient.
L'élève.
Ah, j'espère que j'ai pas des morts devant. C'est vrai qu'un élève mort est un bon élève. Comme dit l'autre, c'est des proches, je disais, un bon sportif, c'est un sportif mort. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je disais, oui. On va lire les textes, on va écouter la musique,
etc.
Oui, ben ça, c'est relativement nouveau quand même. C'est relativement nouveau.
Parce que je suis jeune. C'est
relativement nouveau.
Oui.
Est-ce que ça ne participe pas quand même de cette psychologisation, ça, quand même.
Mais il y a des besoins.
Mais
tout n'est pas à jeter dans la psychologie.
Non. On s'en fout.
Michel Onfray.
Vous savez, je crois que c'était le canard enchaîné il y a quelques années. J'avais lu un article qui disait une catastrophe n'arrive jamais seule. Lorsqu'il y a une catastrophe, elle est suivie par une catastrophe plus grande encore, c'est-à-dire toute cette armée de psychologues, etc., qui viennent traiter ma forte. C'était une boutade. Je me suis longtemps intéressé encore à la psychanalyse, personnellement en plus, très impliqué là-dedans, quand j'étais lillois. Donc pour estimer que c'est tout à fait intéressant, mais simplement, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé, manifestement.
Qui évolue, c'est une
évolution. Est-ce qu'on y porte un jugement de valeur ou pas? Est-ce qu'on on déprécie ça ou pas? En tout cas, ce sont des nouvelles manières de se rapporter à la mort. Voilà, hein, c'est un fou.
C'est pas, moi je dirais pas psychologisé, je dirais individualisé. C'est une personne qu'on enterre, c'est pas le voisin, c'est pas lui.
C'est cette personne-là,
ça me semble.
Bien sûr.
Moi ça me choque pas qu'on personnalise cérémonie.
C'est de fait un changement quand même qui s'est opéré depuis relativement peu quand même.
Mais parce que la société a évolué. Avant, l'être humain ne valait rien. Et puis quand on parlait tout à l'heure que la mort maintenant nous marquait plus, etc. Il y a quand même moins de décès aujourd'hui dans notre société qu'il y a 300 ans. Les gens, les enfants mouraient.
Il y avait une familiarité avec la mort parce que précisément elle était extrêmement
donc
présente.
Donc on ne peut pas comparer et vivre de la même façon quand on fait deux enfants et que que quand on en faisait 20, pour en garder 3.
C'est vrai.
C'est on ne peut pas vivre absolument les choses de la même façon.
Tout à fait, ça, c'est un bon. Et cette famille avec la mort, elle était aussi la cause, enfin, causée par cette mortalité infantile terrible. Hein.
Plus des épidémies, plus
bien sûr,
des choses.
Bien sûr.
La guerre. Mais les guerres n'étaient pas tellement chez les civils, elles étaient chez les militaires. Maintenant, elles étaient chez les civils.
C'est la Révolution française qui change la donne.
Alors moi, je voudrais juste rebondir
c'est
sur...
C'est dur, le lendemain, il faut continuer à tout réaliser, tout ça. Pas le temps de réfléchir.
Je voudrais juste rebondir sur qu'est-ce qui pourrait nous faire du bien. Parce que enfin, nous, on a deux témoignages. Bon, ma maman d'un côté, puis les parents d'une jeune fille qui est décédée à 17 ans. Et bien, en fait, ce qui leur fait le plus de bien, c'est qu'on puisse en parler. Comme si les gens étaient là. Et je pense surtout à cette jeune fille. C'est vrai que c'est important pour eux que quand on parle entre nous en famille, on évoque les choses qu'elle a pu faire, tout naturellement. Et c'est ce qui leur fait le plus de bien.
Qu'elle n'ait pas disparu de nos regards, en fait. Hein,
oui, oui, de la même manière que nous sommes parlés avant de naître, bien avant notre naissance, nous sommes des êtres de langage avant d'être des êtres de chair et de sang. Il faut espérer que nous soyons encore un peu parlés, un peu dans la bouche des autres qui nous entourent un peu après notre mort. Hein, un peu. C'est peut-être au moins la seule immortalité à laquelle nous pouvons décemment prétendre, et celle qui peut-être est la plus accessible. Il n'est pas certain qu'elle le soit si facilement accessible.
C'est une immortalité, oui, qui n'est pas quand même très, très grande, parce que les générations vont petit à petit éteindre le souvenir, parce que c'est du souvenir dont on parle.
Oui, oui.
On aurait pu parler des deuils plus collectifs aussi.
Bien sûr.
La guerre de 14, moi je dis que 100 ans après, tout a été fait pour que notre société ne fasse pas le deuil de la guerre de 14. Et le deuil de la guerre de 14, je le prétends pour avoir pas mal travaillé dessus, le deuil de la guerre de 14 n'est pas fait. Dans les familles.
Qu'est-ce que tu veux dire avec...
Oui, ben
je veux dire que dans les familles, il y a des familles où les amis avant qui ont perdu leurs deux grands-pères. Les deux grands-pères ont été tués à la guerre de 14. Mais ce n'est pas passé aux pertes de profit. C'est latent, c'est lourd dans la famille, et ça continue.
Mais c'est l'idée, justement, qu'au fond, faire son deuil, ça n'a guère de sens.
Oui, mais le 11 novembre, c'était du patriotisme, c'était ce que tu veux, ils sont morts pour la patrie. On n'a pas été au fond des choses. On n'a pas dit ils sont morts pour des conneries à cause de salopards qui les ont envoyés au casse-pied. C'est ça, faire un deuil, c'est être en face de la réalité et l'assumer, et voilà, il a parlé. Faire le deuil, moi je crois, c'est, Madame Denis, c'est beaucoup parler des choses, je crois, pouvoir les parler. On connaît la parole libératrice, c'est un grand classique de la psychologie.
Je pensais à autre chose, mais ça m'a échappé.
Mais dans la parole populaire, je pense que ça évolue aussi, parce que moi, je suis originaire du nord de la France. Quand je suis arrivé ici, la précision dans le langage qui était « ce pauvre Roger ». Moi, la première fois, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais ça veut dire que cette personne est décédée. Mais c'est précisé dans les mots, avec pudeur, mais ça dit les choses. Et j'ai mis 2-3 ans à le comprendre, parce que... Mais voilà, c'est des choses qui sont restées en dessous de la France, qui avaient déjà disparu au nord, et ces glissements, on les a même dans la façon de s'exprimer. Quoi. On intègre plus les disparus, ou on les intègre moins, ou on ne veut plus les voir.
Oui, oui, peut-être. Non. Mais peut-être parce que nous sommes quand même encore beaucoup dans un pays rural, un Aveyron. Je ne sais pas d'où vous venez.
C'est Basse-Normandie. Moi,
c'est encore plus au nord.
Au nord.
Il pleut toujours.
Tout à l'heure, tu parlais d'un lieu public qui s'ouvrait pour accueillir le défunt, sa famille, le souvenir pour des témoignages de souvenirs. C'est vrai que ces lieux, dans le cadre de choses laïques, bien sûr, hein, ces lieux existent quand même, mais ils sont marchands. Ça fait longtemps qu'ils existent. Quand on est dans le cadre des incinérations, des funérariums, bon, là, mais c'est des lieux marchands. Alors, toi, tu parles d'un lieu public, donc voilà, la salle municipale, voilà, où on va pouvoir. Voilà. Bon, d'accord. moi, quel que soit le lieu, bon, c'est vrai que si quelqu'un est laïque, qui a ses dernières volontés étaient de ne pas être enterré en passant par l'église, mais donc trouver un lieu où effectivement ça puisse être un lieu de témoignage. Moi, c'est vrai, ils étaient marchands jusque-là, c'est rare de trouver un lieu public, donc accès aux citoyens. J'ai assisté, il y en a certains sûrement qui ont assisté aussi, à la cérémonie du départ de Bérardi. Ah, voilà, de l'enterrement de Bérardi. Moi, j'ai trouvé que ce lieu, même s'il était marchand, avait été un lieu où on avait entendu que Bérardi était vivant chez les étrangers à la famille, comme vivant dans sa famille aussi. Les témoignages et la qualité des témoignages, de la qualité de la cérémonie, eh bien, elle n'avait rien à envier à des cérémonies dans les églises qui sont parfois fort tristes, avec des prêches qui sont stéréotypées ou inadaptées. Enfin, voilà. Et moi, j'ai trouvé que cette cérémonie-là était empreinte d'une humanité énorme. Et je l'ai trouvée très lumineuse. Et donc, ce passage... et ce témoignage de toutes ces personnes, il y avait la famille, mais aussi les amis, les copains de galère collective, bon, qui ont témoigné. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une exemplarité même de ce que devrait être le départ de chacun à son niveau, bien sûr. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça formidable.
Mais ça se fait, moi, j'ai une amie qui a été la cérémonie se fait dans une salle des fêtes.
Oui, pour avoir un lieu public, oui, oui. Il n'y a pas de raison. Oui.
Souvent, on le faisait dans la famille des parents.
C'est
dans
vrai.
La famille,
On buvait un coup, surtout dans le Nord, d'ailleurs. On buvait un coup après.
Il y avait toujours le repas. Il y a le repas. Oui, il y a le repas.
Il y avait du temps après.
Même ici. Ah oui, le repas est très important.
Oui, c'était génial.
Je me souviens.
On parlait que du monde.
Pour s'amuser un peu, pour nous amuser un peu. Là où je vivais, face au cimetière, il y avait plein de bistrots, plusieurs bistrots. Et l'un d'entre eux avait pour nous, mais c'est vrai, hein, on est mieux ici qu'en face. C'était toujours resté.
On met moins de bruit en face.
Mais bon.
Il y a des bières des deux côtés.
Oui, c'est ça.
C'est pas la même bière.
Et en Bretagne, le crêpe. Bon, je ne sais pas si le débat pourrait effectivement maintenant
nous.
On n'a pas parlé de l'ouverture des testaments.
Ah non.
Espérons, c'est une cérémonie. Nous n'héritons pas seulement des biens de nos parents, mais aussi de leur mémoire.
Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Léna?
Dans mon club de moto en Allemagne, il y avait un décès d'une jeune femme qui tombe mort de son cheval le matin où il a fait ça. Et son copain, il a envoyé un mail à tout le monde et il a dit heureusement que tous les deux, on avait parlé de ce qu'elle voulait faire après sa mort, comment elle voulait être enterrée, qu'est-ce qu'elle voulait de surtout pas avoir. Et du coup, moi, je savais ce qu'il faut faire. Et je vous incite de parler avec vos copains, avec vos amis.
Vous pouvez désormais,
qu'est-ce qu'on veut
dans la loi,
pour que l'autre n'ait pas démunis à ce moment-là.
Anticiper, des directives anticipées.
Oui, dans la loi, il était en train de rappeler que dans la loi Leonetti de 2005, il y a déjà la possibilité, plus que la possibilité, mais d'existence de directive, oui, c'est ça le terme, directive anticipée.
Sauf que le corps médical n'est pas tenu de les suivre.
Oui, le corps
médical. En plus, avec la nouvelle loi, la notification qui
arrive. C'est... Mais ça fait l'objet, ça fera l'objet de notre jeudi en question peut-être. Parce que Là, on aborde d'autres phénomènes de société. Voilà. Et justement, c'est une idée force pour les jeudis en question.
Merci de m'avoir accueilli. J'espère que, au moins, je vous ai donné envie d'aller découvrir d'autres textes.
Voilà. Eh bien, merci. Merci à Jacques.
Bravo, merci.